Alors, une question dont je ne vous cacherai pas qu'elle est franco-française. Est-ce que la dissolution serait une solution à nos problèmes? En tout cas, elle fournirait une rime riche, très riche. Alors, bon, je vous rappelle qu'il y a deux dissolutions. Hein. Il y a celle qui répare un vélo qui a été accidenté. Et puis, il y a celle qui intervient quand il y a une rupture entre la majorité présidentielle et la majorité parlementaire, ou quand il semble y en avoir une. Et à ce moment-là, c'est une espèce de plébiscite que le président qui prend la décision de la dissolution engage. La dissolution, bon, une fois qu'elle est décidée, elle doit être suivie par des élections dans un délai de 20 à 40 jours. Il ne faut pas en abuser non plus. Par exemple, s'il y a déjà eu une dissolution dans l'année, on ne peut pas en faire une autre. Si le Premier ministre n'est pas d'accord pour la dissolution, on ne peut pas passer outre. Bref, c'est un arbitrage délicat. Il y a eu en 1997 un cas extrême. Jacques Chirac était élu depuis 2 ans. Il semblait disposer d'une majorité un peu fragile. Il a voulu y ajouter en prononçant la dissolution. Et c'est le contraire qui s'est passé. Il a eu droit, pendant les 5 années qui ont suivi, à une cohabitation avec Lionel Jospin. Ensuite, bon, il y a des certitudes quand même. Hein, si on ne sait pas ce que réservent les urnes, on sait ce que la Constitution a prévu. Par exemple, elle a prévu que là, il y aurait une rupture de la désormais sacro-sainte simultanéité entre les élections présidentielles et les élections législatives. Bon, ben là, c'est rompu et sans doute pour un bon moment. Et puis, cette autre certitude, c'est que ça avancerait la réduction d'effectifs dont Emmanuel Macron a fait un de ses chevaux de bataille.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
Ça, c'est une question que je qualifierais de franco-française. Est-ce que la moralisation de la publicité serait une bonne chose? Et surtout, est-ce qu'elle est en bonne voie? Alors, je vais poser la question à Maurice Lévy, qui a un double titre pour y répondre. D'abord, il a dirigé le groupe Publicis pendant 30 ans, et c'est le 3e mondial. Et ensuite, aujourd'hui, il est toujours président du conseil de surveillance. Alors, bonjour, monsieur Lévy. Est-ce que vous sentez une vague morale en publicité, comme ailleurs, d'ailleurs?
Bah, la vague morale, elle est effectivement en train de déferler un peu partout. Est-ce que ça touche la publicité? Bien sûr, d'autant plus que la publicité est aux avant-postes. Et ça fait déjà un moment que la publicité est soumise un peu à cette vague morale. Je me rappelle déjà dans les années 70, il y avait des réactions à certaines campagnes. Et puis, progressivement, la publicité s'est adaptée et s'est mise à parler avec un peu plus de subtilité de certains sujets.
Bon, on ne peut pas nier que ce soit un besoin, parce que c'est la nature même de votre métier d'affirmer, je ne dirais pas n'importe quoi, mais enfin, parfois des petites contre-vérités pour aider à mieux vendre un produit.
Ah non, pas des contre-vérités. Je veux dire, ça, ce n'est pas du tout le rôle de la publicité, bien au contraire.
Non, ça a pu l'être dans un passé, peut-être lointain, mais ça a pu l'être. Hein. Aujourd'hui, quand vous voyez une publicité, d'ailleurs très, très attractive, qui donne à penser que si une famille consomme des raviolis quotidiennement, elle est plus harmonieuse qu'une autre, ça va quand même un petit peu loin. Oh, regardez, aujourd'hui, il y a eu des exemples de publicités qui ont été jugées abusives ou qui ont été sanctionnées pour manque de goût. Celle de la crème fraîche que je trouve particulièrement drôle. Alors, la crème fraîche, on la lit, on la fouette et parfois elle passe à la casserole. C'est quand même un petit peu loin. Et pour une marque de voiture, alors là, ça a été un sommet. Un modèle d'occasion, c'est comme une fille. Tu sais que tu n'es pas le premier, mais ça fait plaisir.
Non, attendez, qu'il y ait des écarts et qu'il y ait des gens qui ont comme viatique le mauvais goût, ça arrive dans notre métier comme dans d'autres métiers. Mais la publicité, de manière générale, et là, il y a des exemples magnifiques, c'est de valoriser le consommateur, bien sûr. On ne va pas le maltraiter, de lui montrer tout ce que le produit peut apporter et d'essayer de valoriser la marque. Dans l'ensemble, la publicité est une des plus belles au monde, la publicité française, est une des plus subtiles au monde. Alors, on ne peut qu'être triste quand il y a ces dérapages.
Non, mais je suis de votre avis, je suis même pas loin de penser que la publicité n'est pas seulement un métier, c'est un art.
Ah, on est d'accord.
Est-ce qu'il ne faudrait pas exiger de ceux qui sont chargés à l'antenne, que ce soit la radio ou à la télé, de délivrer ce que j'appellerais des satisfécites testimoniaux, qu'ils aient réellement consommé les produits qu'ils vendent?
Ah, ça c'est ce que l'on essaye de faire, notamment quand on a des porte-parole qui sont des stars, des gens connus, ça fait partie quasiment d'un code de déontologie. Eux-mêmes, quand vous voyez, on va prendre l'exemple d'un produit dont nous ne faisons pas la publicité et qui est connu mondialement avec une star mondiale qui est George Clooney, très clairement, il consomme du Nespresso. Mais de manière générale, une star qui ne se sent pas en accord avec le produit refuse de faire la publicité.
Mais là, il ne s'agit pas de stars, il s'agit généralement de figurants qui d'ailleurs entrent très bien dans la peau du consommateur lambda et qui viennent dire j'ai été très content. Dans par exemple le domaine de l'optique, c'est devenu quelque chose qui revient sans arrêt.
De toute façon, on a une première exigence, c'est qu'il soit en accord avec ce qu'il fait. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Quand les gens ne se sentent pas à l'aise avec un produit, une marque, ça nous est arrivé. Il y a des gens qui disent « Ah non, moi je ne ferai jamais de la publicité pour tel produit, pour une voiture qui ne soit pas une voiture électrique, ou je ne ferai jamais de la publicité parce que ça pollue, ou... je n'aime pas les pâtes et j'en ferai pas, etc. etc. » Donc, les gens, de manière générale, quand ils font un travail, ils le font honnêtement.
Un grand merci, Maurice Lévy, pour avoir remis à l'heure des pendules dont, pour une fois, on ne précisera pas la marque. Merci.
Merci à vous. Merci à vous.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
Une question que vous posez peut-être, si vous êtes à la fois un bon citoyen, un bon contribuable et un bon épargnant, comment trouver la PME ou la PMI dans laquelle vous investirez pour faire plaisir à Emmanuel Macron ? Tout est prévu, mais tout est prévu jusqu'au 31 décembre de cette année. Ensuite, tout peut arriver, y compris l'augmentation de l'impôt sur l'immobilier ou le retour, fut-il aménagé, de l'ISF. D'abord, il y a des dispositions très précises qui sont limitatives, notamment l'engagement, l'investissement d'un célibataire ne peut pas dépasser 50 000 euros et c'est 100 000 euros pour un couple. Ensuite, il faut que ça concerne une société qui a moins de 5 années d'existence, qui se trouve trouve en phase d'amorçage, en phase d'expansion, et dont on gardera les titres au moins 5 ans. Hein. Il ne faut pas penser qu'on va toucher les dividendes et puis s'en aller dans la nature. Non, non, c'est le législateur, dans son infinie sagesse, a prévu qu'il fallait de la stabilité. Et il ne faut pas que la société, elle emploie plus de 2500 salariés. Bon, bah pour une PME, c'est déjà beaucoup. Et puis, il ne faut pas que cette société interfère dans les secteurs de la construction navale ou sidérurgique. Hein. Donc, il y a beaucoup de conditions à remplir, moyennant quoi, si vous investissez le maximum prévu par les textes, vous pourrez bénéficier d'une diminution d'impôts entre 9 et 38 000 euros. Ça n'est pas rien, hein, au moins pour les contribuables moyens. Alors, ensuite, y a une infrastructure qui a été mise en place pour vous accueillir et pour vous renseigner. D'abord, dans toutes les banques, il y a un service habilité, parce que j'imagine que vous avez des renseignements complémentaires à solliciter. Et puis, sur Internet, il y a la présentation des entreprises demandeuses. Alors, une vidéo de présentation où il y a l'équipe et où on explique comment fonctionne déjà l'entreprise et surtout à quel capital d'investissement elle voudrait aboutir. Alors il y a des exemples hein, dans lesquels on peut investir quasiment tout de suite, enfin si tant est que l'investissement souhaité par les entrepreneurs n'ait pas déjà été atteint tandis qu'on parlait. D'abord il y a le premier laboratoire vétérinaire qui recourt aux cellules souches pour les médicaments destinés aux animaux. Ensuite, il y a les déambulateurs intelligents et intuitifs. Je dis bien déambulateurs intelligents qui mémorisent un parcours et ses obstacles. Et puis, il y a une plateforme qui se propose de mettre en relation des conducteurs de drones avec les industriels qui pourraient en avoir besoin. Et puis, il y a une application qui porte sur la réduction des risques à se servir du téléphone en voiture. Il y en a une autre sur les sous-vêtements dont on a réussi à éliminer les ondes nocives pour la fertilité masculine. Vous voyez, ça va très loin. Il y a une méthode pour apprendre le mandarin très rapidement. Enfin, très rapidement, il faut voir. Et puis, il y a une application qui, elle, autorise l'apprentissage de la guitare d'une façon uniquement visuelle. Et sans oublier une machine à fabriquer les cocktails sans intervention humaine et 300 cocktails possibles. Et puis enfin, une méthode de coiffure, alors là ça va intéresser les dames, qui propose qu'en moins de 15 minutes, pas une seconde de plus, on bénéficie d'une coiffure mode et sans shampoing et sans coupe. Et sans doute, pour un prix modique, ça va sans dire. Donc, comptez vos billets et puis surtout estimez la part que la retenue à la source va vous subtiliser. Mais bon, ça sera un peu moins d'argent sur vos comptes courants, mais à la fin de l'année, il y en aura, paraît-il, ni plus ni moins. Enfin, quand le gouvernement dit ni plus ni moins, ça reste à voir.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
L'Académie ne malmène-t-elle pas le français en le féminisant à l'excès ? Eh bien, je vais poser la question à Jean-Marie Rouard, qui siège sous la coupole depuis 1997. Dites donc, il y en a eu des tournis provoqués par votre dictionnaire.
Oui, mais ne comptez pas sur moi pour dire du mal de l'Académie. J'ai eu suffisamment de mal à y rentrer pour maintenant ne pas cracher dans la soupe. Non, vous savez, le procès qu'on fait en ce moment à l'Académie, à mon avis, est quand même un peu injuste, puisque, au fond, ce phénomène de féminisation, il a été lancé par les pouvoirs publics.
Oui, mais attendez, aujourd'hui, Jean-Marie, sur quels critères vous basez-vous pour décider, et votre décision est toute puissante et sans appel, que la féminisation de certains métiers, de certains grades, de certaines fonctions est à l'ordre du jour?
J'aimerais bien que notre décision soit toute puissante et sans appel. Vous savez, l'Académie est un élément de la langue française. Et elle ne fait, au fond, que, c'est son rôle, qu'essayer de définir le bon usage. Le bon usage de la langue française.
Oui, mais le bon usage, il existe dès lors que vous l'avez décidé. Il n'y a pas une autre instance. Il y a des gens qui parlent bien le français et qui pourraient disserter presque avec autant de compétences que vous sur le fait que, par exemple, si la marquise de Sévigné vivait encore, ça ne serait plus une femme de lettres, mais une écrivaine. Alors, vous imaginez Madame de Grignan?
Écoutez, je crois que cette décision est un peu politique. C'est-à-dire que l'Académie s'est rendue compte qu'il y avait une poussée depuis longtemps, puisque le journal officiel avait parlé des écrivaines, des auteurs. Alors, le journal officiel, il faut le lire, la préfète, enfin tout ça, la féminisation, sévit vraiment d'une façon très forte au journal officiel. Moi, je crois que simplement, l'Académie a pris conscience de ce mouvement qui est à la fois qui est parti des revendications des femmes qui voulaient remettre en compte la discrimination dont elles se sentaient l'objet.
Non, mais Jean-Marie Rouard, vous auriez pu prendre cette décision quand, pour la première fois, vous avez admis une femme parmi vous. Bon, vous ne l'avez pas fait. Et alors, pourquoi on ne dit pas aussi d'une femme qui est médecin que c'est une médecine ?
Oui, parce que ça... Alors là, non, mais je pense que, si vous voulez, si l'Académie a pris cette décision, je pense que aussi il y a un autre élément qui était beaucoup plus dangereux pour la langue française, c'était l'écriture inclusive. Et ça, je crois que ça, c'était une vraie menace pour la langue française. Heureusement, là, le pouvoir politique, le Premier ministre Édouard Philippe, à repousser.
Non, mais attendez, les généralités, il faut bien les admettre, puisque vous les représentez depuis des siècles, et pas mal, hein, quand même. Non, mais par exemple, est-ce que celle qui était avant une femme croupier ne risque pas davantage de manque de respect depuis que c'est devenu une croupière?
Alors là, elle peut le demander. Vous savez, ce qu'il y a de formidable dans notre décision, décision collective, c'est que, par exemple, pour la ministre, eh bien, une femme ministre peut demander qu'on l'appelle Madame le ministre ou Madame la ministre. C'est la même chose pour les ambassadeurs et les ambassadrices. Eh bien, la femme de l'ambassadeur, c'est l'ambassadrice. Non. Maintenant, on considère qu'une femme ambassadeur, il faut l'appeler l'ambassadrice. Mais certaines ambassadrices veulent qu'on les appelle Madame l'ambassadeur.
On peut se demander, où vous promenez-vous pour humer l'air du temps?
Écoutez, je pense que l'air du temps, en ce moment, avant, autrefois, c'était la langue française était faite à la fois par une alliance, en effet, des écrivains, et maintenant, c'est le monde de la publicité qui contribue à la langue française. Et c'est pas pour le meilleur. Non, je pense que la décision de l'Académie, elle n'impose rien, elle constate simplement que cette question de la féminisation des métiers qui existait et qui se fait assez naturellement, parce que c'est vrai qu'il y avait des métiers qui autrefois n'existaient pas. C'est vrai que des femmes pompiers, il y en avait très peu.
Les femmes présidents, il n'y en a pas encore, et quand il y en aura, il n'y en aura qu'une. Alors, je vous pose pour finir la question de confiance. Quand nous aurons enfin une femme à la tête de l'État, est-ce qu'il faudra l'appeler Monsieur la Présidente ou Madame le Président?
Je crois que Madame le Président sera tout à fait la façon de s'adresser à elle, bien entendu. Mais vous savez, pour l'instant, je ne trouve pas que l'Académie ait pris une mesure. C'est une mesure disons qu'il se fait que c'est une constatation. Pour les métiers, je crois que ça se fait naturellement. C'est plus complexe pour les fonctions, voilà, notamment la fonction de président, la fonction
Vous savez, Jean-Marie, je vous connais depuis longtemps, et puis, Académie oblige, je n'attendais pas de vous que vous remettiez en cause une sage décision. Merci Jean-Marie Rouard.
Merci, merci Philippe Bouvard, merci.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
L'expression de la semaine, on la doit au Premier ministre. Ah, vous savez ce qu'il a dit, le Premier ministre ? Il a dit « Le temps est venu de résorber quelques-uns des angles morts du pouvoir d'achat. » Vous saviez que votre pouvoir d'achat avait des angles morts comme votre chère bagnole ? Non ? Eh ben oui, eh oui. Alors, c'est un aveu d'autant plus courageux que implicitement, il reconnaît que quand on conduit le char de l'État et qu'on regarde au-dessus du tableau de bord, on ne voit toujours pas le fameux mur vers lequel nous nous dirigeons.